Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La vaccination obligatoire, vous l'avez dit Christelle, et c'est vrai que ça fait parler. Et nous sommes avec Elias qui a 28 ans, bonjour.
Bonjour.
Et c'est une question que chacun se pose, hein. Faut-il rendre la vaccination obligatoire? Pour les soignants, il y a consensus. Pour les gens fragiles, il y a également consensus. Et on regrette qu'il ne le soit pas. Vaccination pour tous, c'est pas la même chose.
Si je vous donne mon avis dessus.
Ah, bien sûr.
Bon, eh bien, moi, de toute façon, c'est hors de question. Pour n'importe quel prétexte, ce sera hors de question. Pour plusieurs raisons, déjà. La première, c'est le manque cruel de transparence par rapport aux personnes qui vaccinent. Je veux dire par rapport au... pas le personnel, mais par rapport à ceux qui conçoivent les vaccins, déjà, de un. Et sans rentrer ni dans la théorie du complot, ni rien du tout. C'est juste que c'est pas transparent. Qui sont ces gens? On sait que certaines enseignes comme Moderna, Pfizer, etc. ont été accusées et même avérées d'affaires d'escroquerie, d'affaires de corruption. Donc moi, je ne donne pas ma confiance dessus.
Je suis vraiment ennuyé parce que le rôle de modérateur que je dois jouer... C'est difficile parce qu'en même temps, c'est l'émission des auditeurs.
Oui.
Et à peine avez-vous parlé que je vous interromps.
Oui,
mais
dites-moi.
Mais quand vous dites qui sont ces gens, et ça, il y a des précautions, il y a des, comment dire, des programmes qui ont été faits, c'est en phase 3, il y a des vérifications qui ont été faites, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des procédés, donc pardonnez-moi de vous couper parce que votre parole est libre, bien sûr, dans ce...
Très bien. Je vais aller au but, ok? Ça va être plus simple. Est-ce que le vaccin aujourd'hui est efficace par rapport à la situation?
Bah, la réponse est oui.
Eh ben, si c'était oui, pour quelle raison les personnes qui sont vaccinées ont encore ces précautions-là de faire des tests PCR, de se protéger, de ci, de ça? Et pourquoi on entend encore parler de gens qui se sont fait vacciner, qui sont retombés malades de Covid?
Mais parce qu'un vaccin ne te protège jamais à 100%.
Mais
d'abord, le vaccin, il protège de la gravité de la maladie. Donc, pouvez tomber là malade, mais vous ne terminerez pas en réa, et les personnes qui sont tombées malades et vaccinées, peut-être seraient-elles décédées. Peut-être que le vaccin les a protégées.
Mais dans ce cas de figure, si vous dites, et vous le dites là, que ce n'est pas efficace à 100%, le fait de vacciner tout le monde, déjà, n'est pas une solution en soi. Puisque de toute façon, vous n'allez jamais régler le problème, finalement.
Moi, je peux entendre ça, puisque je pense qu'il faut vacciner d'abord les gens fragiles.
Écoutez,
je pense qu'il faut sauver les réas et sauver les hospitalisations.
C'est ce que vous pensez. Moi, maintenant, ce que je pense de mon côté, parce que chacun a sa façon de penser, et je suis complètement... Je respecte complètement votre avis, et il est certainement fondé. Moi, de mon côté, je vois numéro 1 que nous n'avons pas les résultats qui étaient attendus quand on nous disait « le vaccin va régler tout ». C'est faux. Les gens qui sont vaccinés ont toujours les mêmes précautions et elles retombent malades. On le voit dans d'autres
mais
pays.
Mais pas les gens, c'est une...
Il y en a. Mais une part infime. Mais moi aussi, je peux vous dire qu'une part infime de gens, quand vous voyez la population mondiale, une part infime de gens sont mortes du Covid.
Mais
je peux vous dire la même chose.
Mais alors, c'est quoi votre solution?
Non, ma solution, c'est que je suis pas en train de proposer une solution.
Ah oui, mais c'est intéressant. C'est l'affaire du bénéfice-risque. Entre vacciner une population fragile et ne pas vacciner une population fragile, moi, je vaccine une population fragile.
Oui, mais qui vous dit que moi, je suis fragile? Moi, je ne me suis pas fait vacciner, je suis tombé malade du Covid, j'en ai guéri. Est-ce que je suis considéré comme fragile?
Bah, si vous avez 28 ans et que vous n'avez pas de comorbidité, a priori, vous n'êtes pas considéré comme personnalité à risque.
Alors je vous repose la question, pourquoi le vaccin serait obligatoire pour moi? Et c'est en cela que moi, je suis contre.
Mais je suis d'accord avec vous, puisque lorsque Christelle, on a échangé tout à l'heure, je suis sur la même position que vous pour toute la population. Je pense que ce n'est pas utile que les gosses de 15 ans ou de 20 ans soient vaccinés. Mais en revanche, je pense qu'il est impératif de vacciner les gens fragiles et en comorbidité et le personnel soignant. C'est eux qui font exploser les réas. Donc on vaccine toutes les personnes fragiles.
Mais moi, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites jusqu'à maintenant. Aucun problème. Simplement, quand vous me dites, est-ce que le vaccin doit être obligatoire ? Quand j'entends obligatoire, c'est que c'est obligatoire pour tous, dont moi.
Mais ça, ça s'entend. Mais c'est pas le départ de votre conversation. C'est qui sont ces gens ? On n'a pas de transparence,
oui,
etc. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir.
Mais j'aurais pu, si vous m'aviez laissé finir ce que j'avais dit, parce qu'après je suis parti tout de suite à la fin, mais je pourrais vous dire que non seulement...
Je voyais une défiance globale sur le vaccin.
Non, absolument pas, absolument pas. Moi, je suis pas contre.
Ça,
non,
c'est mal, j'ai mal entendu, non, alors, non, Elias. Parce que quand vous me dites qui sont ces gens, il n'y a pas de transparence, on ne sait pas, et ils ont été accusés d'escroquerie, laboratoires, je me dis, ça part mal.
Écoutez, monsieur Pro, je peux vous dire du début à la fin qu'il y a des problèmes partout, et vous allez être certainement d'accord, puisque je peux vous dire, voilà, le gouvernement a pris de très mauvaises décisions pour la gestion Covid, on n'a pas à en reparler, ça va faire tout un sujet, c'est pas la peine, et tout le monde le sait. Si je vous disais, les gens se sont fait vacciner, mais les problèmes continuent, vous le savez, on n'a pas besoin d'en parler. Si je vous disais que les gens qui ont fait les vaccins, pour certains d'entre eux, ont été accusés de corruption, vous le savez, tout le monde le sait, on a simplement besoin d'aller chercher sur Internet. Donc j'ai envie de vous dire, avec tout ça, c'est pas une défiance par rapport au vaccin. C'est que moi, je me pose la question, comment se fait-il qu'on arrive à des degrés où on impose aux gens de se faire vacciner?
Bah là, on n'impose rien pour le moment, mais c'est, on en parle en tout cas. Elias, je vous propose de marquer une première pause.
Parfait.
Et puis de conclure ensuite. Mais c'est vrai qu'il y a une petite musique aujourd'hui. Certains réclament d'ailleurs une vaccination obligatoire pour tout le monde. Bonjour monsieur Karanoni.
Bonjour à tous.
On va célébrer les vacances aujourd'hui.
Avec plaisir, j'ai préparé quelques petites chansons pour illustrer.
Je me demande finalement si c'est pas le bon moment de partir en vacances, parce qu'on est le 2 juillet, on peut encore dîner dans les restaurants, aller à la plage, je sais pas si le 15 août on sera dans le même état. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure.
J'allais vous le dire. Vous faites un peu l'oiseau de mauvais augure, Pascal.
Ce qui est pris est pris. C'est-à-dire que si tu pars en vacances maintenant, au moins tu sais que tu peux dîner au restaurant le soir. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Cher Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question du jour. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ? Est-ce le seul moyen pour éviter une quatrième vague ? Il faudra l'envisager, selon Dominique Le Gulidec, la présidente de la Haute Autorité de Santé, réagissait ce matin chez nos confrères de BFM.
D'abord, des vaccinations obligatoires, il y en a quand vous voyagez. Deuxièmement, même pour les soignants, hein, l'hépatite C, voilà. Donc c'est pas une première. Et puis, voilà, ça dépendra vraiment de la situation épidémique. Il faudra l'envisager.
Le vaccin pour tous, oui, écrit Emmanuel sur nos réseaux sociaux. Infirmière qui se présente comme Covidée en mars 2020 et vaccinée il y a 3 mois. On perd un temps fou, il faut accélérer, demande Cédric. Les Français ne sont pas capables d'être sérieux. Je n'ai pas envie de revivre avec des restrictions. À vous marcher sur la tête, répond Patricia. Non mais oh, réveillez-vous, il n'est pas question. Le gouvernement m'impose cette piqûre. On est en France, on a des libertés aussi. Et jamais ils n'oseront, pense David, sinon des manifestations vont avoir lieu tous les week-ends.
Alors on remercie évidemment Elias, mais Elias va rester avec nous. Pourquoi ? Parce que Jean-Marc est sur une position exactement contraire à celle d'Elias. Donc, Jean-Marc est chef d'entreprise, il habite Vannes. Bonjour, vous venez d'écouter Elias.
Bonjour,
vous êtes pour l'obligation obligatoire pour tous.
Ah oui.
L'obligation, non, la vaccination obligatoire, parce que l'obligation obligatoire, c'est un peu idiot. Mais la vaccination obligatoire pour tous.
Complètement. Pour moi, c'est juste aberrant de ne pas le faire. Mais parce qu'il faut arrêter avec les théories du complot, de je sais pas quoi, c'est dangereux, tout le monde nous a... qu'est-ce qu'ils vont nous injecter, etc. Enfin, je veux dire, tous les Français sont faut arrêter, quoi. On vaccine les gens, comme ça on repart sur quelque chose de neuf. Et au pire du pire, admettons que ça serve pas à grand-chose, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va limiter les formes graves, ça va limiter tout un tas de choses, et on va pouvoir retrouver une activité quasiment normale. Les Français, ils adorent ça, retrouver une activité normale. Donc, je comprends même pas pourquoi on se pose la question. Il y a quelques années, bon, peut-être un peu plus que quelques années, mais quelques dizaines d'années, quand vous avez la rubéole, on vous mettait dans une cour d'école et puis on vous piquait, on vous demandait pas votre avis, on n'était pas en train de dire qu'est-ce que vous pensez de la rubéole. Je sais pas, je suis médecin, non, on vous demandait pas votre avis, vous faisiez le nécessaire, enfin on piquait les gens et on est très content de pas avoir la rubéole ou pas avoir la polio ou pas avoir je ne sais pas quelle maladie. Et je comprends même pas pourquoi on se pose la question.
Alors je vais vous répondre pourquoi.
La difficulté, c'est
que la rubéole, elle pouvait tuer, ou même la polio, elle pouvait toucher tout le monde de la même manière. Mais là, vous avez le Covid qui ne touche, a priori, dans les formes les plus graves, que des gens fragiles, avec comorbidité. Donc
oui,
l'objectif...
Le variant Delta a l'air de toucher des gens déjà différents. Donc on est déjà en train de se poser la question, est-ce que ça va toucher que les anciens? Est-ce que finalement ça ne va pas toucher un peu les autres?
Jean-Marc, globalement non. Les gens qui terminent en réa. Jusqu'à présent, l'objectif c'était de sauver l'hôpital et les réanimations. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus?
Oui, puis l'objectif aussi c'était de sauver... Oui, sauver
c'était que ça. Le reste, oui, que les gens aient le Covid et que ça passe trois jours, c'est la vie. On est d'accord quand même là-dessus. On est d'accord sur le constat. Bon, donc à partir du moment où tous les gens fragiles et vulnérables et avec comorbidité sont vaccinés, les réas n'explosent plus et l'hôpital est protégé. Est-ce que nous sommes aussi d'accord là-dessus?
Oui, mais l'hôpital...
Alors pourquoi vous voulez vacciner les gosses de 15 ans?
Mais parce que je pense que ça ne sert à rien d'essayer de se dire, attendez, moi, j'ai fait médecine, je pense que l'objectif primordial, c'était de faire celui-là, et puis maintenant qu'on l'a fait, bah, on est peinard, etc. On n'en sait rien, mine de rien, vous avez plein de gamins qui...
Donnez-moi un argument, moi, je veux bien tout entendre, je vous assure, donnez-moi un argument pour que les gosses de 20 ans... Il n'y a pas un gosse de 15 ans qui est mort. Il n'y en a pas en France.
Non, mais à ce moment-là...
Donc moi, je veux bien qu'on vaccine tout le monde, mais...
On va pas vacciner les gosses de 15 ans, mais vous savez très très bien, vous savez comme moi qu'il y a eu énormément de personnes qui ont chopé le Covid, qui l'ont attrapé par exemple.
Mais si les autres sont vaccinés, Jean-Marc. Les autres.
Ben donc ça veut bien dire qu'il faut bien rendre obligatoire une grosse partie de la population.
Mais je vous répète, dans ces cas-là, les fragiles.
Mais les fragiles, c'est quoi les fragiles?
Statistiquement, la sécurité sociale, c'est précisément qui termine en réa. Donc là, vous prenez des statistiques âge.
Donc on prend uniquement les gens qui terminent en réa, qui peuvent potentiellement, soit ils sont gros, soit ils fument, soit ils je sais pas quoi. Et à ce moment-là, c'est pour ça
qu'il y a eu toutes les restrictions de prise. C'est ce qu'on nous a expliqué pendant un an. Toutes les restrictions ont été prises pour sauver la réa.
Je suis pas complètement d'accord.
C'est pour ça qu'on discute d'ailleurs, parce qu'on n'est pas d'accord.
Je suis pas totalement d'accord avec ce constat qui dit, ok, alors les moins de 15 ans, on va pas les vacciner. Mine de rien, tous ceux qui veulent partir en vacances là à l'étranger, moins de 15 ans ou pas, bizarrement, ils y vont, il n'y a pas de problème. Hein. Donc si vous leur imposez une restriction en leur disant, vous savez quoi, une obligation, si vous voulez aller à l'étranger, que vous ayez en Grèce ou je sais pas quoi, n'importe où, là où les variants se développent, un peu plus qu'autre part, et là où ils acceptent en fait des gens qui sont vaccinés d'autres vaccins qui n'ont pas été validés par l'Europe, etc., comme la Grèce par exemple, et bien là, bizarrement, tout le monde se fait vacciner, tout le monde y va avec le sourire en disant « Oui, je veux partir en vacances, j'y vais ». Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. C'est que d'un côté, vous obligez un peu les gens, mine de rien, ils y vont tous, parce qu'ils savent tous...
Moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est l'obligation. Parce que c'est une liberté individuelle. Si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, c'est aussi une liberté individuelle. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je peux comprendre.
Mais je comprends aussi.
Alors en revanche, quand on est évidemment soignant, c'est pas la même chose, parce que vous avez donné votre vie à la médecine et il y a des contraintes. Et bien parmi ces contraintes, c'est que vous soyez vacciné. Les militaires dans le temps étaient vaccinés de la même manière. Il y a des métiers. Bon, Jean-Marc, Benjamin est là et Benjamin va pouvoir entamer la conversation aussi avec vous. Ah, il va entamer manifestement après la pub, Benjamin. Puisque
je casse l'ambiance, vous voulez dire.
Je suis désolé. Alors, c'est le 2 juillet aujourd'hui. Donc c'est
l'anniversaire de Flavie Flamand.
Non.
De Thomas Otto.
Oui.
Certainement d'un tas de gens qui nous écoutent, à qui je souhaite un bon anniversaire d'ailleurs.
Ben voilà, on va aller voir qui est né un 2 juillet. Ils sont donc nés sous le signe du cancer.
Tout à fait.
Bon, bah écoutez.
Tout à fait, cher Pascal Haas.
Eh bien écoutez, c'est très bien, c'est un signe intéressant le cancer.
Ah oui, pour quelle raison alors?
Mais je ne connais pas.
Ah.
Là je ne peux rien vous dire, là je fais le malin, mais je ne connais pas. Flavie Flamand, effectivement, et Maïta Biraben également est née le 2 juillet.
Je ne connais pas cette dame. Maïtena.
Maïtena.
Je vous cherche un peu, non, mais c'est juste que vous avez un peu ripé.
Je peux vous dire que Alex Morgan, Samina Seri est née le 2 juillet. Ouais. Donc vous voyez, Jerry Hall, Pierre Lescure, Lynn Renault, effectivement. Jean-Jacques Rousseau est né. Bon, on va essayer de l'appeler, tiens. On va essayer de l'avoir pour lui souhaiter. Pour lui souhaiter un bon anniversaire. Bon, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est très intéressant d'entendre les réactions des uns et des autres. Par exemple, il y a François Loncle, qui a été député de 81 à 2017, qui est membre honoraire du Parlement, et qui est en train de tweeter, il nous écoute, il dit « La propagande anti-vaccin de Pascal Praud à une heure de grande écoute sur RTL est une honte ». Voilà où on en est. C'est-à-dire que j'avance, nous échangeons avec des auditeurs, nous essayons d'avoir une conversation intelligente, pourquoi pas, argumentée, et ça devient pour Monsieur Loncle, la propagande anti-vaccin est une honte. Vous voyez, donc quand je dis que ce virus, quoi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était BHL qui avait dit « ce virus rend fou ». Bien, hélas, c'est compliqué d'avancer sur ce sujet. Alors, je le dis à Monsieur Loncle, il se trouve que moi, je suis vacciné chaque année, pour notamment contre la grippe. Donc, il n'y a pas de propagande anti-vaccin de mon côté. En revanche, Benjamin est là et qui va pouvoir nous parler du Pas-de-Calais. Mais on va essayer de l'appeler, pourquoi pas, Monsieur Loncle ?
Ouais, bonjour Pascal.
Bonjour Benjamin.
Et alors, moi, je vais vous défendre aussi contre M. Loncle parce que.
Il a été plus... ancien ministre et président de la commission des affaires étrangères. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est formidable d'ailleurs, je prends les auditeurs à témoin.
Ah oui, non, mais moi, j'ai discuté plusieurs fois avec vous pendant ces périodes Covid sur l'antenne et vous n'êtes pas anti-vaccin.
Non seulement pas, mais je les applique pour moi. Donc
voilà. Bon. si vous me permettez deux petites secondes, j'aimerais dire. Alors, il n'y a rien d'obligatoire, hein, bien sûr, mais dire à tous les Français qui partent en vacances en France et même les étrangers, s'ils peuvent prendre un peu de leur temps pendant leur lieu de vacances pour aller donner leur sang, voilà, ce serait très bien, ça aiderait l'ESS. Ça, c'était aparté, c'est le professionnel de santé qui parle. Sinon, par rapport à l'obligation sur la vaccination, moi, comme je l'ai dit à Pierre-Louis au téléphone, je ne suis pas pour. Et pourtant, je suis professionnel de santé, je suis vacciné. Hein. Moi, j'ai même fait AstraZeneca plus Pfizer, en fait. Parce que je pense que c'est par l'information et par le fait de rassurer les patients qu'on va les inciter à se faire vacciner. Voilà. Nous, on travaille comme ça, à la pharmacie. On a tous les jours des gens qui se posent la question, est-ce que je vais me faire vacciner ou pas ? Et on les écoute, leur peur. Et on les rassure, voilà. On les rassure avec ce qu'on sait. D'ailleurs, si Elias veut avoir un peu de transparence, je l'invite à aller sur le site de l'ANSM. Il aura toutes les informations qui sont vérifiées dans ce cas-là. Tout ça, on le redit à nos patients. Et les gens, à la fin, ils disent, inscrivez-moi. Voilà, inscrivez-moi sur la liste d'attente pour se faire vacciner. Donc je pense que c'est par l'information, par le fait de rassurer toutes les personnes qui ont peur de la vaccination, qui ont des doutes, venez voir vos professionnels de santé, passez à la pharmacie, passez chez votre médecin traitant, demandez à votre infirmière, et ils seront là pour vous rassurer et vous expliquer aussi les bienfaits du vaccin.
Mais j'entends ce que vous dites sur la pédagogie, mais sur la stratégie globale, quand je dis qu'il faut d'abord vacciner en priorité les fragiles et les vulnérables et qu'après on n'aura pas de soucis, est-ce que vous validez ça ?
Je suis d'accord avec vous. Pas de soucis, oui, ce sera un peu comme la grippe en fait, voilà. Où il y a des gens qui feront la grippe mais qui n'ont pas de risque de faire de forme grave. Et dans ce cas-là, on n'aura pas d'hospitalisation. C'est ce qu'on explique sur le vaccin pour la grippe, c'est ce qu'on explique sur le vaccin pour la Covid. Voilà, qui est quand même très efficace sur les formes graves, hein, à plus de 95%. Donc voilà, c'est hyper rassurant. Et au plus la population fragile sera vaccinée, au moins on aura effectivement ces surcharges en réa qu'on a eues et qui ont entraîné les confinements. Là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, là où je peux apporter un argument par rapport au chef d'entreprise qui voulait vacciner tout le monde, c'est que les tests prouvent quand même que le fait d'être vacciné, on transmet moins le virus. Voilà. Donc ça peut être un argument qui peut s'entendre. Donc le fait de vacciner même les personnes qui ne sont pas fragiles permet une diminution de la transmission du virus.
Bah écoutez, on va marquer une nouvelle pause et puis ça va être intéressant de continuer évidemment cette discussion. Il y a d'autres sujets, hein, bien évidemment, aujourd'hui. Il y a notamment, après avoir diminué le nombre de personnes qui perdent la vie sur nos routes, stagne depuis 2013 et c'est le constat d'un rapport de la Cour des comptes. On pourra parler du crop top. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce qu'est un crop top.
Vous voulez que je le dise ? C'est un petit t-shirt. Le top étant, en général, on dit que c'est pour un haut, un t-shirt. Et crop, ça veut dire, on voit le nombril, quoi.
Bah, c'est Emmanuel Macron qui s'est dit hostile à cette pratique. Là encore, c'est des sujets, c'est pas facile. Si vous avez une fille qui a 18 ans, 19 ans chez vous, c'est pas la même chose que si vous avez une pré-ado qui a 12 ans, 13 ans. Si vous avez une pré-ado de 12 ans, 13 ans et que vous la voyez partir à l'école avec un crop top où elle dévoile son nombril, peut-être pouvez-vous la mettre en garde, forcément, de l'image qu'elle donne d'elle-même. À 18 ans ou à 19 ans, c'est différent parce qu'elle sait l'image qu'elle donne d'elle-même. Elle est plus mûre, il y a plus de maturité. Donc, c'est des sujets, là encore, sur lesquels vous pouvez intervenir. Et puis, les juilletistes. Vous êtes juilletiste ou haussien ?
Moi, je suis plutôt haussien.
Ah oui, mais haussien, il y a plus de monde.
Ah oui, mais bon...
Est-ce que juillet, c'était bien de partir en juillet en vacances, il y a moins de monde.
Vous êtes juilletiste et haussien, du coup.
Mais moi, j'aimais bien partir en juillet parce qu'effectivement, il n'y avait pas grand monde sur les plages. En août, il y a vraiment entre le 1er et le 15 août, parfois, c'est chaud.
C'est parfaitement le moment où je vais partir.
Bah oui. Bon, est-ce qu'on arrive à joindre Monsieur L'Oncle, par exemple ?
C'est en cours, je crois que Laurent Tessier est en train de...
Ah, ça serait intéressant parce qu'il n'a pas été gentil avec moi, Monsieur L'Oncle. Donc, on va pouvoir argumenter. Et vous allez voir, je suis sûr qu'il va dire « Ah, oh, j'ai pas voulu dire ça », etc. Souvent, c'est ça. Bah oui, parce qu'il dit que je suis anti-vaccin, c'est pas bien.
Mais s'il nous écoute, qu'il vous a entendu dire ça, il le dira peut-être pas, du coup, finalement.
Peut-être pas. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Nous vous attendons dans quelques minutes au 32-10 sur cette question. Faut-il interdire le crop top à l'école, ce t-shirt qui laisse le nombril apparent ? Emmanuel Macron s'est dit hostile à cette pratique, comme son ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. À l'école, je suis plutôt tenu décente, exigé aussi bien pour les filles que pour les garçons. Tout ce qui vous renvoie une identité, une volonté de choquer ou d'exister n'a pas sa place à l'école. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a réagi hier.
Alors maintenant, nous avons deux penseurs de l'habillement féminin, l'ayatollah Khomeini, suivi de l'ayatollah Khamenei, et Monsieur Macron, qui décide quelle est la longueur à partir de laquelle une jeune femme ou une jeune fille ou une fillette se comporte d'une manière décente ou non. La France est prise dans une sorte de folie où on se dirigerait progressivement vers une police du vêtement.
Emmanuel Macron a raison, nous dit Petit Fab sur nos réseaux sociaux. Crop top, mini-jupe, maquillage, talon haut. Quand on a 12-13 ans, il faut être raisonnable. Idem pour les garçons avec le pantalon, vous savez, en dessous du boxer. Pour Véronique, l'école sert à apprendre. Ce n'est pas un podium pour défiler de mode. Et remettez-moi vite fait l'uniforme, demande Carole. Le problème sera réglé facilement comme ça.
Non mais là où c'est intéressant d'écouter Jean-Luc Mélenchon, parce que il a sans doute raison, ou peut-être raison, Emmanuel Macron, mais est-ce que c'est à lui de le dire ? Est-ce qu'un président doit parler du crop top ?
C'est toute la question.
Voilà. Est-ce qu'il doit aller à ce niveau-là ? Évidemment, c'est une question qui peut être traitée. Alors, nous sommes avec Françoise à présent. Bonjour Françoise.
Bonjour Pascal.
Vous habitez Lille. Merci d'être avec nous.
Je vous remercie de m'écouter. Bon, déjà, je fais une petite parenthèse. Je ne comprends pas la personne qui vous dit que vous êtes anti-vaccin. Bon, à mon avis, on n'a pas du tout la même oreille. Mais bon, voilà, on n'a pas ni la même écoute, ni la même oreille.
Bah écoutez, on essaye pour tout vous dire d'entrer en contact avec lui. Donc
voilà. Alors moi, je me permets d'intervenir. Bon, je vais commencer, bon, ce qui n'est pas habituel, par ma conclusion. Bon, je vous préviens tout de suite, elle va décoiffer. En fait, comme je suis retraitée, j'ai 72 ans, je suis vaccinée, j'ai eu mes deux doses. J'ai des enfants qui travaillent au CHU de Lille, donc je connais bien les problèmes d'origine, c'est-à-dire que j'ai tout connu en live, le manque, les engorgements des réanimations, le manque de matériel, etc. Bon, tout ça, on a quand même un petit peu oublié. Et à l'origine, il faut quand même savoir que ce sont essentiellement les personnes âgées, donc qui étaient notamment dans les EHPAD, qui ont malheureusement subi cette vague de plein fouet de Covid. Bon, eh bien, moi, ma conclusion, c'est que plutôt que d'imposer un vaccin obligatoire à tout le monde, il faut peut-être commencer par l'imposer à toutes ces personnes fragiles, notamment les personnes âgées des EHPAD, je précise, qui ont engorgé ces services de réanimation et qui malheureusement sont décédées en grand nombre. Et je suis, comme nous avons eu, et c'est ma conclusion qui décoiffe, comme nous avons eu à une certaine époque une vignette pour les vieux, hein, eh bien je suis, moi, pour une taxation au bénéfice des services de réanimation sur les pensions de retraite des personnes âgées qui refusent de se faire vacciner. C'est dur.
Bah oui, c'est surtout...
C'est dur, Mais en
c'est
fait,
surtout, je pense, anticonstitutionnel peut-être,
oui,
et en tout
peut-être.
Cas, ça serait retoqué par toutes
mais
les juridictions du pays.
Les...
Alors, je ne sais pas si c'est le Conseil d'État
non,
ou le...
Non, mais Pascal, je sais que je suis dans l'excessif.
Oui.
Tout à fait, je suis dans
non,
l'excessif.
Mais c'est vrai que... Mais en même temps, c'est... en fait, ces discussions, elles sont terribles. C'est la liberté de chacun. C'est ça qui est compliqué.
Oui, mais c'est la liberté de chacun.
Alors, vous allez me dire, c'est la liberté aussi de chacun de rouler sans casque, de rouler à 180 à l'heure, et ça, c'est vrai. Mais je n'arrive pas. Quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, qu'est-ce que vous voulez que faire ?
Oui, mais attendez,
c'est son
Pascal,
choix.
On a quand même sacrifié notre économie, on a sacrifié la vie des jeunes, tout ça
je suis
pour
d'accord.
sauver la
mais
vie
je suis
de
d'accord.
personnes âgées qui, sous prétexte de la liberté, et en plus, petite parenthèse, quand ils sont dans des EHPAD, c'est souvent parce qu'ils ont perdu leur faculté cognitive. Et ce sont ou les enfants ou des référents qui décident à leur place. Donc là, moi, je suis scandalisée qu'on puisse dire non, mon petit pépé ou ma petite mémé, elle ne se fera pas vacciner. Pour moi, c'est de l'égoïsme pur, c'est de l'inconscience, je ne comprends pas. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai cette conclusion. Bon, je le sais, elle est excessive. Elle est excessive, mais je me dis que si on tape un peu au portefeuille ces gens-là, eh ben, rapidement, ils vont peut-être changer d'avis.
Allô ?
Oui, oui, je vous entends.
Françoise, figurez-vous, Françoise, que effectivement c'est excessif, mais ça peut s'entendre. Et figurez-vous que j'étais perturbé parce que nous avons joint François Loncle. Et d'abord, je le remercie parce qu'il accepte le jeu de la discussion. Il a donc été député de 81 à 2017. Il est membre honoraire du Parlement. Il est ancien ministre et président de la Commission des Affaires étrangères. Il a tweeté tout à l'heure, mais vraiment, son tweet était intéressant. C'est pour ça que je l'ai cité à l'antenne. Hein, il était public. Il disait « La propagande anti-vaccin de Pascal Praud à une heure de grande écoute sur RTL est une honte. » Et effectivement, ce n'est pas du tout le cas, qui n'est pas d'ambiguïté. Mais c'est pour ça que ce virus, d'une certaine manière, il tend les rapports, ou il électrélie et électrise les conversations, parce que je ne partage pas évidemment cette position ou cet avis de M. Loncle. Il dit également « Refuser le vaccin contre la Covid, c'est désormais porter atteinte à la vie d'autrui. » Donc on l'appelle, puisque nous avons trouvé son téléphone, on est en direct, hein, bien évidemment, et on va pouvoir échanger. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. RTL, Tour de France 2021.
Mourad Djabari, on vous avait oublié à 13h30.
Ah bah faut pas.
Bah oui, c'est vendredi, vous voyez. On avait la tête ailleurs et c'était le point du Tour de France toutes les demi-heures sur RTL.
Exactement, avec une étape entre Vierzon-le-Creusot, c'est la plus longue étape depuis 20 ans sur le Tour de France aujourd'hui, avec 29 coureurs échappés, c'est l'échappée du jour, avec plus de 4 minutes 25 d'avance sur le peloton. Un groupe étiré composé de Mathieu Van Der Poel, le maillot jaune, du Belge Wout Van Aert, troisième au général, les deux punchers habitués qui adorent ce genre de parcours long et accidenté, composé aussi de Vincenzo Nibali et de deux Français, Franck Bonamour et Christophe Laporte. On a parcouru plus de 110 km sur 249. C'est une étape marathon, une classique. Prochain point, si vous le voulez bien, Pascal, à 14h, en compagnie de Christian Olivier.
Merci, Mourad.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
François Loncle nous a donc rejoint. Bonjour, monsieur Loncle.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Je regardais votre biographie qui est impressionnante puisque vous avez été député quasiment pendant 30 ans. Vous avez été ministre. Vous avez été ministre sous François Mitterrand. Vous avez d'ailleurs commencé votre carrière comme journaliste. Vous avez fait le CFJ.
Exactement.
Donc vous êtes et vous avez commencé à Paris-Normandie. Alors j'étais pas content. Évidemment que j'étais pas content, j'ai lu votre tweet à l'antenne, parce que je l'ai trouvé vraiment pas convenable vis-à-vis
vous,
de ce
vous
que...
Vous n'avez pas tout lu parce que je disais que vous étiez un bon journaliste.
Bah, non, oui, mais ça d'abord je vous remercie. Mais je trouve que ce débat est très compliqué, puisque dès qu'on essaye d'apporter de la nuance, même vous, j'ai envie de dire, avec votre passé, avec votre nuance, vous avez été ministre, ça se traduit par la propagande anti-vaccin à une heure de grande écoute. C'était pas du tout ce que je disais. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce que nous disions ?
Je voudrais à mon tour nuancer, parce que moi je considère l'épidémie Covid comme gravissime, et surtout les perspectives de variants dont on ne connaît pas exactement la capacité enfin on commence à la connaître malheureusement dans un certain nombre de pays qui sont touchés, la capacité de contamination. Alors ma nuance est la suivante, je retire le fait que je ne pense pas que vous soyez anti-vaccin, mais vous diffusez évidemment une opinion qui fait que cela va être reçu comme anti-vaccin Covid. Vous êtes manifestement du côté de ceux qui ne veulent pas d'obligation. Et là, ça
je veux une obligation pour les personnes fragiles, je veux une obligation pour les personnes vulnérables et je souhaite une obligation pour les soignants. Ce que je dis, c'est qu'une fois que ces gens-là sont vaccinés, il n'y a pas de raison de vacciner les gosses de 15 ans.
Alors, bah, si ça se limite à cela, c'est parfaitement discutable. Mais pour les soignants, ça me semble urgentissime, et je suis quand même étonné qu'il y ait plus de la moitié des soignants qui ne se soient pas fait vacciner.
Mais nous sommes d'accord. Voilà. Mais nous sommes à 100% d'accord. Mais c'est les autres parties de la population. Si
oui, dans les arguments des anti-vaccins Covid, il y a énormément de complotisme et il y a énormément de propagande extrême droite, extrême gauche. On le consulte dans tous les sondages. Bon, pour le reste, je reconnais avec vous que je n'aurais pas dû dire anti-vaccin vous concernant, mais que votre point de vue qu'on peut respecter parce qu'après tout, mais là en matière,
mais c'est même pas un point de vue en fait. C'est pas un point de vue, Monsieur l'oncle. Je vous répète,
dans vos deux auditeurs qui se sont exprimés, vous avez pris parti quand même pour celui qui développait malheureusement ça, des thèses complotistes par rapport au chef d'entreprise qui disait qu'il fallait se faire vacciner.
Monsieur l'oncle, ce que je dis depuis le départ, les restrictions et le confinement, nous sommes d'accord que nous avons pris ces mesures parce que les réa explosaient. Est-ce que nous sommes d'accord avec ce raisonnement ? À partir du moment où les gens qui allaient en réa n'y vont plus, puisqu'ils sont vaccinés, pourquoi voulez-vous vacciner l'autre partie de la population ? C'est ça la question que je pose.
Eh bien, alors, je suis en désaccord parce que ça veut dire qu'il faut arrêter la vaccination sous prétexte que 50% des Français sont vaccinés. Mais ça ne suffit pas à 50%. Vous savez très bien qu'il faut monter jusqu'à 70-80% de la population pour qu'il y ait une réelle barrière au développement de l'épidémie.
Mais sauf monsieur l'oncle, et c'est là qu'on discute, on peut se moquer que le Covid continue de circuler si personne ne va en réa. C'est ça notre point de désaccord.
Oui, attendez,
qu'est-ce que ça peut faire que des gosses de 15 ans puissent avoir le Covid s'il n'y a pas de conséquences ?
Mais là, vous vous trompez, mon cher Pascal Praud, parce que pour deux raisons. D'abord, parce que les enfants peuvent contaminer des personnes fragiles.
Mais sauf elles seront vaccinées, monsieur l'oncle ?
Non, mais...
Elles peuvent les contaminer.
Elles ne sont pas toutes. Quand même de développer un Covid. Et vous savez à quel point aussi, certes, il y a eu évidemment toutes les personnes en réanimation. Et moi, j'ai même un collègue qui est resté 2 mois, un ancien collègue... Un ami Jean-Luc Redzer qui est resté pendant 2 mois en respiration artificielle qui heureusement s'en est sorti. Bon, et j'ai 2 ou 3 collègues, vous le savez, qui sont morts. Patrick Devedjian.
Bien sûr, mais c'était des... François Long, je vous assure, je ne minimise pas du tout.
Fragiles.
Ah ben si, c'était des...
Claude
Goasguen, il était dans hélas... Dans une statistique par l'âge et par sa morphologie qui pouvait le rendre fragile.
Patrick
Devedjian. Patrick Devedjian, il avait passé 70 ans.
Si vous voulez que les personnes de plus de 70 ans décèdent, alors il faut le dire.
Je dis que statistiquement, au-dessus de 70 ans, oui, tu dois être vacciné.
Il y a en plus, au-delà de la réanimation, il y a en plus énormément de personnes qui ont eu le Covid et qui ont des séquelles sérieuses et durables. Alors, j'estime, moi, que refuser la vaccination, on peut discuter effectivement de la tranche d'âge jusqu'à...
Je ne parle que de ça.
Jusqu'à 20 ans.
Bon, d'accord.
Par être d'accord. Mais sinon, je vous assure que refuser, combattre la vaccination anti-Covid, c'est vraiment porter atteinte à la vie d'autrui, en la circonstance, compte tenu des risques que font courir les variants au Covid.
En tout cas, merci de cet échange, monsieur l'oncle. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes retiré de la vie politique ?
Oui, en partie, je m'y intéresse toujours vivement, y compris dans les domaines internationaux qui m'ont toujours intéressé. Oui, mais encore une fois, je suis en plus un auditeur d'RTL, j'ai quitté France Inter pour RTL, et je ne suis pas de ceux qui vous critiquent.
Voilà. Ah bah vous êtes très gentil, vous avez été notamment président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et puis ça me fait plaisir. En quelle année vous êtes passé au CFJ, monsieur Loncle ?
Alors, je suis de la promotion 63.
Voilà. Et il y avait qui dans cette belle promotion, dans notre métier, de notre métier ?
Oh ben, vous savez, c'est les années où il y avait... c'est juste avant Pierre Lescure, avant... Alors, Poivre d'Arvor, c'était un petit peu plus tard. Il y avait des journalistes comme Philippe Sassier, André Azoulay... vous savez, le palmarès CFJ, il n'est pas
bien
mauvais.
Bien sûr, bien sûr. Centre de formation des journalistes, le CFJ, rue du Louvre. Merci beaucoup, monsieur Loncle, Philippe Sassier, qui a été longtemps sur France 2, qui faisait l'économie. Oui. Donc, et puis, ça m'a fait plaisir de vous connaître de cette manière-là, et puis de trouver...
Vous avez rencontré, figurez-vous, je vous avais rencontré à Auxerre, pour un match de foot. Je suis toujours, hélas... C'est difficile aujourd'hui, un supporter de la JOCR, et vous étiez au match Auxerre-Real Madrid, et je vous avais vu à ce moment-là.
Bon, ben, vous voyez, finalement, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné, disait je ne sais plus qui. Donc on a pris
le champagne à la mi-temps.
On a échangé ensemble et nous avons pu trouver un terrain d'entente. Merci en tout cas, parce que c'est le charme de notre émission, de pouvoir échanger et de pouvoir essayer de trouver des terrains d'accord. Il est 13h48. Bonne journée à vous, monsieur Loncle. Pause, et puis peut-être que nous allons... nous allons encore continuer à parler vaccination, parce que ça arrive beaucoup, toujours et encore.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Les juilletistes démarrent leurs vacances ce week-end.
Est-ce que tu viens pour
Oh si.
Bon, si.
Allez-vous partir cet été? Vers quelle destination? Environ 85% des Français vont partir dans l'Hexagone, 15% à l'étranger. Hôtelier, avez-vous réussi à faire le plein? Les réservations sont-elles bonnes? Vive les vacances en France! Lance Anthony sur la page Facebook. Nous avons la chance d'avoir un beau pays, profitons-en. Direction la Vendée pour Delphine avec la caravane pendant 3 semaines. On reste à la maison, nous dit Gabriel, et on reçoit nos enfants, nos petits-enfants. Et vous, dites-nous votre programme au 3210. Et puis allez, on peut remettre le couteau dans la plaie. Il y a 21 ans, le 2 juillet 2000, l'équipe de France de football devenait championne d'Europe en battant l'Italie 2-1 avec le but en or de David Trezeguet. Ce ne sera pas le cas cette année.
Nous y étions, c'était à Rotterdam. Jean-Paul est avec nous, bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous, vous avez écouté tous nos échanges depuis 13h. Quel est votre sentiment?
Mon sentiment, c'est simplement un témoignage que je vis actuellement. Je vais avoir 60 ans, je suis en bonne forme, enfin j'étais en bonne forme, voilà, pas de surpoids, pas de diabète, et donc j'ai été touché et je suis vacciné Pfizer, la deuxième dose depuis mai 2000, il y a 2 mois, et Pfizer, et donc j'ai été touché par le variant, le Delta, il y a une semaine, ça a commencé, détecté vendredi dernier, j'ai eu les symptômes juste avant, et donc... dès vendredi, testé positif PCR antigénique, et dès vendredi soir, température de 39,5, presque 40, et ça a continué comme ça 2, 3, 4, 5 jours en prenant du Doliprane, donc ça baissait, et aujourd'hui, comme je dis, je commence un petit peu à retrouver un peu de... Voilà, que la température baisse et que c'est un peu de vigueur. Mais c'est pour... J'entendais ces témoignages, j'y vais pas. Mais c'est... Justement, je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, avec ce vaccin, j'aurais pas dû l'attraper. Déjà, je fais partie des fameux 5-6% qui l'attrapent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, parce que officiellement vous annoncez 5-6%, mais comme je suis suivi maintenant par le Covidem, avec j'ai une infirmière libérale qui est venue et elle parle aussi. Elle dit non, mais il y a de plus en plus de gens vaccinés aujourd'hui Pfizer. On dit bien Pfizer, Moderna, qui sont touchés par le variant, par le Delta. Et en région.
Mais entre la deuxième dose Pfizer et le moment où vous avez attrapé le variant Delta, il s'est passé combien de temps?
2 mois.
Donc vous étiez vacciné complètement.
Ah oui, tout à fait. Et si vous voulez.
Et où est-ce que vous l'avez attrapé ?
Là, j'ai dû l'attraper sur les terrasses parisiennes.
À Paris.
À Paris. Oui, oui.
C'est-à-dire que vous pensez que vous l'avez attrapé en plus dehors ?
Oui, je pense que j'ai attrapé. Alors, on me demande, mais où, quel endroit ? Alors, c'était le moment des ouvertures. Vous êtes à l'intérieur, extérieur. Vous êtes avec beaucoup de monde.
Vous n'avez pas fait de dîner ?
Non, j'ai fait des dîners, mais un petit peu quand même, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais un peu moins. C'est vrai que je bouge beaucoup de par ma profession, mais c'est
Non, parce que c'est pas la même chose si vous l'avez attrapé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais
non,
vous
non,
avez
non,
fait
non,
des
non.
dîners régulièrement sur depuis trois semaines.
Non, je fais attention. Je suis quelqu'un qui fait attention. Je suis quelqu'un qui est plutôt précautionneux, plutôt sans exagérer. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas où j'ai attrapé. Alors, il est en région parisienne, il est là, il est encore de plus en plus virulent, il est de plus en plus présent. Et là,
comment vous allez ?
Alors, je vais un peu mieux. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour tous ceux qui sont aujourd'hui hésitent, dans mes tranches d'âge, je dis bien dans mes tranches d'âge, parce que j'ai compris votre message, j'avais compris qu'effectivement vous, et je reviendrai deux minutes pour les jeunes, parce que j'ai des salariés jeunes, c'est Elias qui était là au début, il y a 28 ans, on parlera un petit peu de ça. Mais simplement, oui, je vais mieux, mais il faut savoir que dès le début, quand vous avez... vous êtes atteint par le Covid en étant vacciné, et c'est ça qui est extraordinaire avec ce vaccin, c'est que quand vous n'êtes pas vacciné, les anticorps ne prennent pas tout de suite le relais, vos propres anticorps, ils ne prennent pas le relais tout de suite, et donc le virus a le temps de s'installer, et tout d'un coup ça explose, et votre température monte tout à coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut attendre. Moi, dès le début, j'ai senti, et c'est curieux parce que vous le ressentez dans votre corps, vous ressentez que dès le début, ce delta, il était là, ce variant, il était là, et qu'il était commencé, et tout de suite, vos anticorps, aidés des anticorps du vaccin, eh bien, luttent. Et c'est pour ça que les températures ont tout de suite sont montées à 39,5, 30, presque, pas 40, je suis pas allé à 40. Et tout le monde, et les gens qui me soignent, enfin, qui sont autour de moi, me disent « heureusement que tu étais vacciné, heureusement ». Voilà. Et ça, c'est un témoignage.
Vous pensez que vous l'avez transmis à quelqu'un autour de vous ?
Oui, je l'ai transmis à ma fille. J'ai transmis le jeudi soir.
Quel âge elle a, votre fille ?
Elle a 23 ans. Elle est entre deux doses.
Quels sont ses symptômes ?
Elle tousse, elle a de la température. Elle a 23 ans, elle tousse, elle a de la température. Ça va, elle a l'air de mieux supporter que moi, parce que ça met à plat, hein, quand même, cette histoire. C'est très fatigant, vous n'avez envie de rien. C'est fou, je ne pensais pas, mais même avec le vaccin. Alors, c'est dire, la vie...
Vous dites, vous n'avez envie de rien.
Oui, on a envie. En plus, j'ai perdu le goût, un peu de goût, j'ai perdu un peu d'odorat. Mais on a perdu un peu de tout. Et c'est vrai qu'ils ne protègent pas. C'est vrai, parce que les anti-vaccins pourraient dire « Ah bah tu vois, regarde, tu l'as eu quand même. » Oui, que j'entendais Elias qui disait « Oui, ça, les gens l'ont. » Effectivement, on fait partie de plus en plus de gens, puisque de plus en plus de gens vont être vaccinés, donc de plus en plus de gens l'auront. Mais quand même, ça sera atténué. Et c'est vrai, c'est la vérité. Donc oui.
Bah, écoutez, votre témoignage est très fort, Jean-Paul, et il est d'autant plus fort que vous aviez les deux doses Pfizer, évidemment, que vous l'avez attrapé dans Paris, qu'il y a très peu aujourd'hui de gens qui ont le variant Delta. Les contaminations sont à moins, je crois, de 2000 par jour. Hein, aujourd'hui, ça repart, non. Pour le moment, ça ne repart pas. Ouais, en revanche, la part du Delta est plus importante.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas d'augmentation.
Les témoignages que j'entends, les infirmières disent « Ah, on est quand même un peu plus sollicité ». Et des gens vaccinés. Ça veut dire que je ne serais pas surpris, c'est pour ça qu'ils alertent qu'effectivement, si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention et si on ne se vaccine pas plus que ça, oui, inévitablement.
Bah, merci. Merci vraiment Jean-Paul pour ce témoignage qui était très fort. On va changer de sujet avec le crop top. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse le crop top. Monique.
Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous ?
Et vous, vous portez un crop top ?
Oh, tu parles, bien sûr.
Bon.
Moi, je trouve ça très choquant.
Choquant ? À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
14h. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Et on file tout de suite sur le Tour de France.
RTL, Tour de France 2021.
Septième étape entre Vierzon et Le Creusot. C'est la plus longue depuis 20 ans sur la Grande Boucle. 249 km en tout. Et il reste un peu plus de 112 km à parcourir, Christian Olivier.
Ah ouais, 112 km à parcourir, c'est-à-dire que les coureurs sont à hauteur de Châtillon en Bazois et dans le département de la Nièvre, Châtillon en Bazois. Et effectivement, l'étape est très longue avec un véritable coup de pétard au bout de 40 km. Raconté précédemment dans les interventions sur l'antenne de RTL par Morad Jabari sur la moto RTL, avec désormais 28 coureurs en tête et avec des têtes d'affiche. En premier lieu, le maillot jaune Van Der Poel, mais également Van Aert plus précisément. Précisément le troisième au classement général qui pourrait faire une bonne opération par rapport au peloton des autres favoris. Je veux penser à Alaphilippe, à Pogacar et à Roglic qui actuellement possède plus de 5 minutes et demie de retard sur ses échappés royaux qui s'entendent et qui continuent en tous les cas pour au moins la victoire d'étape. Mais peut-être aussi à moyen terme pour le classement général, qui s'entendent et qui prennent les relais. Moto RTL, Morad Jabari.
Exactement, au plus près de cette échappée des coureurs avec un groupe étiré qui roule très fort. On appuie lourdement sur les pédales, les relais sont pris dans cette longue ligne droite, un rythme qui lâche certains qui ont du mal à coller au queue de ce groupe. Marc Cavendish est passé en tête du sprint intermédiaire il y a quelques kilomètres et il devrait se relever. Mission accomplie pour le maillot vert. Mathieu Van Der Poel, le Belge Wout Van Aert, vous le disiez, deux punchers habitués de ces parcours longs et accidentés. Le baroudeur Philippe Gilbert, deux Français, Franck Bonamour et Christophe Laporte. Christophe Laporte qui a une grande pointe de vitesse, qui passe très bien les bosses. On approche la côte, la première difficulté, c'est la côte de Château-Chinon, 3 km à 5%, Christian. C'est la première difficulté du jour.
Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30.
A tout à l'heure, merci beaucoup Christian Olivier. Morad Jabari sur le Tour de France pour RTL. Rendez-vous ce soir à 18h30 pour le Club Jalabert avec Christophe Paco. Et puis, la spectatrice à la pancarte, cette jeune femme à l'origine d'une chute massive lors de la première étape, sera convoquée le 14 octobre au tribunal. En garde à vue, la trentenaire a fait part de ses regrets. Elle voulait, dit-elle, adresser un message à ses grands-parents. Du football ce soir également avec la suite de l'Euro. Place au quart de finale. Les Suisses, tombeurs des Bleus, affrontent l'Espagne à 18h. Puis ce sera au tour de la Belgique contre l'Italie à 21h. Rendez-vous dès 20h sur notre antenne pour RTL Foot avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Du retard dans les aéroports de Paris en cette première journée de grand départ en vacances. Entre 30 minutes et 1h au terminal 2E de Roissy Charles de Gaulle, occupé ce matin par des salariés grévistes sur les routes Bison Futé, voie Orange dans le sens des départs, rouge même en Île-de-France. Dans les gares, les trains circulent normalement. La météo, ce sera agité demain, des nuages, de la pluie, même des orages vont traverser le pays d'ouest en est. Ces pluies, elles seront soutenues du sud-ouest au massif central. Seul le littoral méditerranéen sera épargné et aura droit au soleil. Côté température, on aura 23 à 27 degrés en général, jusqu'à 33 près de la Méditerranée. Et puis les courses, pour finir, elles ont lieu en nocturne à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille le 6, le 4, le 8, l'As, le 5, le 3 et le 15. Sa dernière minute, c'est l'As Galileo Bello.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous parlerons donc du crop top et ce qui est étonnant, c'est que le crop top, faut-il interdire le crop top à l'école? C'est le t-shirt qui dévoile le nombril. Et ce qui est étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron est entré dans cette discussion. Il s'est dit hostile à cette pratique comme son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. C'est plus logique d'une certaine manière de la part de Jean-Michel Blanquer. À l'école, je suis plutôt tenue décente, exigée, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Tout ce qui nous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister n'a pas sa place à l'école, a dit notamment Emmanuel Macron. Alors évidemment, ça fait réagir, parce que est-ce que c'est d'un niveau de la présidence de la République de dire comment on doit s'habiller ou pas?
Mais il a raison.
Monique.
Mais il n'a pas tort. Pourquoi il n'aurait pas le droit de dire ce qu'il pense?
Parce qu'on attend du président de la République, peut-être, qu'il parle de diplomatie, de politique générale, mais petite pas qu'il me dise ce que je dois mettre.
Il faut arrêter. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il dise qu'il faut se faire vacciner. Il a le droit de rien dire, alors il ne faut pas exagérer. Hein. Bon, de toute façon, moi, ce truc-là, je trouve ça indécent. Moi, quand j'étais gamine, en 6e, on portait une blouse rose avec le nom et le prénom et la classe brodée. C'était ma mamie qui avait tout brodé au point de chaînette. Et de la 5e, jusqu'à la terminale, on avait toujours des blouses avec le nom, la classe, tout était brodé, on était tout habillés pareil. Hein. Et quand je suis rentrée à la banque, bon, peut-être, j'ai pas le droit de dire laquelle, mais peu importe, on s'en fiche, eh ben, on n'avait pas le droit de porter des pantalons. Hein.
Monique, on va faire un choc générationnel. Vous allez parler avec Victoire. Victoire, elle a 19 ans. Et elle est étudiante en Aix-en-Provence.
Oui, oui, elle a un an de plus que ma petite fille.
Voilà, j'allais dire, Victoire, ça pourrait être votre petite fille. Alors, oui, Victoire, qu'est-ce que vous avez à dire à Monique ?
Alors, bonjour.
Et bonjour.
Bonjour, Victoire, vous avez un joli prénom.
Merci beaucoup. Alors, il ne faut pas être révoltée comme ça.
Oh, mais je ne suis pas révoltée. Mais moi, je vous dis que pendant ma scolarité, on a toutes porté des blouses.
Monique,
et on
c'est à Victoire de parler.
Morte.
C'est alors, à Victoire okay. de pas reparler.
Non, ok.
Il y a quelques années, vous vous êtes battue donc, pour porter les femmes des pantalons, puis après, aujourd'hui, avoir la liberté...
Enlevez le haut-parleur, Victoire, enlevez le haut-parleur, parce qu'on vous entend moins bien. On fait la pub, on fait la pause et vous revenez tout de suite. Monique et Victoire, ça c'est intéressant. Deux générations sur le crop top qui vont s'affronter. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Donc Monique, qui habite Paris et qui est contre le crop top, et Victoire, qui est étudiante à Aix-en-Provence et qui va dialoguer avec elle pour la convaincre, pourquoi pas.
Non, elle ne me convaincra pas. Hein.
Laissez Victoire parler.
Elle peut toujours courir. Hein.
Victoire, allez-y, mais ça ne va pas être simple.
Non, aujourd'hui, il ne faut pas être fermé d'esprit. On a une génération... qui veut évoluer, qui veut faire bouger des choses.
La blessure de l'évolution. Excusez-moi, pour moi, c'est
non, Monique, faut que vous, elle a le droit de
Monique,
dire deux mots, parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. Voilà, écoutez, alors, pendant 45 secondes, Victoire.
Donc aujourd'hui, bah, toutes les générations souhaitent mettre en place son évolution, faire changer les choses à sa manière. Par exemple, on voit avec TikTok, je pense aussi, on a un engouement sur des modes qui arrivent. Je pense par exemple donc au crop top. Et si les étudiantes ou les lycéennes, les collégiennes veulent venir travailler en cours dans la limite du respectable, ne pas venir non plus avec un soutien-gorge ou avec un maillot de bain, mais venir dans la limite du respectable où on voit le nombril, il ne faut pas non plus hyper-sexualiser l'adolescente, la jeune femme. C'est pas parce qu'on va voir un trou dans le genou, par exemple les pantalons troués, ou on va voir le nombril, que ça va chambouler la scolarité d'un jeune garçon et qui va être déboussolé. Il faut pas en fait rester non plus tranché sur ses avis et rester bloqué. Voilà, je pense qu'il faut évoluer avec le temps. Et si ces jeunes femmes veulent faire évoluer à leur manière les choses en voulant la liberté de montrer leur nombril. En quoi ça dérange ? Ça ne dérange aucunement et ça ne dérange personne. Donc, je pense qu'on a tout à fait le droit de venir en crop top.
Mais voilà. Monique.
Eh bien, moi, j'appelle ça la décadence de la civilisation occidentale.
Et alors après, rien de moins. C'est nuancé.
Oui, ouais, alors après, on dit, on va dire que Placido Domingo a embrassé une nana, qu'elles viennent toutes se plaindre. Alors, ceci dit, ce n'est pas une raison pour aller les tripoter, je suis d'accord. Mais enfin, elles cherchent bien des fois le bâton pour se faire battre, les nanas. Hein. Parce que franchement, aller à l'école, c'est bosser, c'est étudier, c'est avoir ses examens et pas montrer son nombril.
Et donc, si vous montrez votre nombril, vous risquez de ne pas avoir votre bac, c'est ça?
Non, mais attendez, franchement, il y a autre chose à faire que de... Moi, j'appelle ça de la décadence, écoutez. Vous vous habillez comme vous voulez, mais écoutez, il n'y a qu'à se balader à poil aussi, tant qu'on y est.
Non, justement...
Pascal, je suis contente de vous entendre rire.
Mais non, mais parce que...
Je pense que vous n'avez jamais visualisé un crop top. Vous pouvez aller visualiser sur Internet.
Non, mais écoutez, de toute façon, déjà, ne me parlez déjà pas des réseaux sociaux. Moi, j'ai vu le ministre de la Justice au théâtre qui disait que les réseaux sociaux, c'était une poubelle à ciel ouvert, et je trouve qu'il a tout à fait raison.
Non mais Monique, par exemple, quand la mini-jupe est arrivée, dans les années 60...
Ah mais moi 60, j'en ai porté des
mini-jupes. Ah oui, mais c'était, je pense que votre grand-mère, elle n'aimait pas du tout les mini-jupes, c'était le même débat.
Ah bah, c'était pas trop vulgaire, vous avez pas... Vous
je suis sûr, Monique, que votre grand-mère...
La mini-jupe juste au genou, c'était pas vraiment la mini-jupe. Hein.
Non, mais
là maintenant, quand vous voyez des nanas qui ont des shorts, hein, qui sont à ras des fesses, franchement, écoutez, même moi qui suis une femme...
La question est celle-ci, c'est... En quoi ça va déranger la scolarité d'une étudiante de venir en crop top ?
Et en quoi ça va lui faire avoir ses examens et tout ? Mais écoutez, franchement, vous ne me convainquez pas.
La liberté de s'habiller, on est en 2021. Ah bon l'étudiante, elle porte un masque, par exemple, et qu'elle a envie, justement, de...
C'est ça. On porte un masque et le reste du temps, on est à poil. Voilà, c'est bien. Vous avez raison.
Alors, mais non, mais un crop top,
Monique,
on n'est pas,
c'est pas exactement
poil,
ce que dit Victoire, si vous me permettez.
Non, mais ça m'énerve, moi. J'ai même envie de raccrocher.
J'ai bien compris. Monique, un peu de tolérance pour la jeune génération. Je vais vous dire, Monique, tout est question...
Je verrai ma petite fille habillée comme ça, elle s'en prend une.
Ah non, ça c'est pas... Bah c'est, vous trouvez que c'est mieux de taper des enfants,
mais
vous...
Non, mais j'ai ça comme ça.
Bon,
mais franchement,
Victoire,
je dirais à ma belle-fille... Mais non, mais,
Victoire, vous avez 19 ans. Et je trouve que ces questions-là, c'est une question toujours de subtilité et de nuance. Une jeune fille de 19 ans, c'est pas la même chose qu'une jeune fille qui entre dans l'adolescence, qui a 12 ou 13 ans.
Et
si par exemple j'ai une fille de 13 ans, il se trouve qu'elles sont plus grandes aujourd'hui, si je la vois partir à l'école en crop top à 12 ans, 13 ans, il est possible que j'ai encore un regard quand même sur la manière dont ma fille de 12, 13 ans va s'habiller à l'école. Et que je lui dise, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ma chérie. En revanche, si elle a 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous voyez, c'est différent. Parce qu'il y a une maturité.
16 ans, elle n'est pas majeure.
Oui, mais il y a une maturité plus grande. Il y a une maturité plus grande.
Déjà, moi, j'estime que j'y...
Monique, là, je parle à Victoire. Donc,
je vais raccrocher parce que ça me gonfle.
Ah non, Monique.
Mais
pourquoi ?
C'est pas parce que vous avez tort que vous devez raccrocher.
Mais non, ah ben, elle a raccroché, Monique.
Elle a vraiment raccroché,
Monique. Elle a raccroché son crop top au porte-manteau. Victoire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, que vous avez 19 ans, c'est pas la même chose que 12 ans ou 13 ans ?
Exactement, il faut nuancer ses propos. Il faut bien sûr qu'une personne qui a 12 ans, qui, de toute façon, en plus, quand elle vit normalement sous le toit de ses parents vont avoir un droit de regard sur comment elle va au collège, au lycée. C'est comme à peu près tous les parents aujourd'hui dans le monde. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, si à 16-17 ans, elle veut venir avec son crop top à l'école, je trouve ça pas dérangeant, faut pas non plus. En fait, il y a tellement aujourd'hui autour de la jeune femme, de l'adolescente, vraiment une hypersexualisation, c'est-à-dire que peu importe comment elle va s'habiller, comme le disait Monique, je trouve ça un peu léger de ta part, mais de dire qu'on va donner le bâton pour se faire battre, je trouve ça mais horrible de dire ça, dire que ça va justifier.
Je suis d'accord avec vous que c'est une formule qui n'était pas convenable. Une pause, Sophie va être là, elle est maman, Sophie, donc ça va être intéressant, elle a peut-être une fille qui est en âge d'aller à l'école en crop top. Et c'est un nom un peu barbare, hein, ce crop top. Nous, les garçons, on n'a pas ça, hein, manifestement.
Non.
Nous, y a pas
vous aimeriez porter un crop top ?
Non, je n'aimerais pas porter de crop top, mais il n'y a pas cette hypersexualisation des vêtements pour les garçons, me semble-t-il, en tout cas.
Je ne crois pas non plus, non.
Hein, c'est plus, effectivement, des choses qui sont parfois mises, ou en tout cas désignées, et c'est peut-être d'ailleurs très sexiste, hein, finalement, puisque ce sont les femmes qui sont victimes de cela. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il y a 3 ans, lorsque je suis arrivé pour animer cette émission, Les auditeurs ont la parole, il était déjà là. Il s'appelle Pierre-Louis. Il est remarquable. Il est indispensable. Il est formidable. Il est sympathique. Il est cultivé. Il a toutes les qualités pour accueillir les auditeurs. Et c'est sa dernière, figurez-vous, aujourd'hui, puisque Pierre-Louis va rejoindre le Petit Matin l'année prochaine. Donc je l'embrasse tendrement. Je lui dis vraiment toute mon affection. Et je lui dis combien il aura été décisif dans la réussite de ce programme depuis 3 ans. Bon vent à Pierre-Louis au Petit Matin. Bon vent Pierre-Louis. Le crop top avec Sophie qui sera notre dernière auditrice. Vous êtes une maman. Vous avez une fille peut-être, Sophie ?
Non, j'ai un garçon. Bonjour d'abord.
Bonjour, pardonnez-moi.
J'ai un garçon de 9 ans et un petit garçon de 5 ans.
Mais si vous aviez une fille en crop top à 12-13 ans, ça pourrait vous ennuyer, disiez-vous.
Un peu. En fait, c'est après, c'est où sont les limites. Donc, est-ce que... parce que là, du coup, c'est un haut, c'est court, mais du coup, si c'est un bas, un pantalon, un short, où est-ce que ça s'arrête, en fait ? C'est plutôt dans ce sens-là. Moi, les crop top, j'ai été dans une enseigne, on va dire pour les jeunes. Moi, j'ai 36 ans, hein, donc voilà, j'ai été dans une enseigne pour les jeunes et j'étais incapable de vous dire si du coup c'était des bandeaux, donc des sous-vêtements, ou si c'était des crop top. tellement que c'était court, en fait.
Bah oui, effectivement. Sophie, c'est la dernière aujourd'hui de Flavie Flamand entre 14h30 et 15h30. Elle sera l'année prochaine à l'antenne à partir de 20h. Donc nous allons faire une spéciale peut-être débrief avec Flavie et Laurent Tessier. Il est 14h21. Merci Sophie. C'est Laurent.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Celui qui a une vraie folie et que nous partageons lorsqu'il fait le débrief, c'est Monsieur Tessier.
C'est la question du jour. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ? Eliane ne veut pas en entendre parler.
Moi, de toute façon, c'est hors de question. Pour n'importe quel prétexte, ce sera hors de question. Et vous le dites là, que c'est pas efficace à 100%. Le fait de vacciner tout le monde, déjà, n'est pas une solution en soi.
La réponse de Jean-Marc après ce premier appel au 3210.
Il faut arrêter avec les théories du complot, de je sais pas quoi, c'est dangereux, tout le monde nous a... Qu'est-ce qu'ils vont nous injecter, etc. Enfin, je veux dire, il faut arrêter, quoi. On vaccine les gens, comme ça, on repart sur quelque chose de neuf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va limiter les formes graves et on va pouvoir retrouver une activité quasiment normale.
Sinon, dans l'émission fin de semaine, oblige, c'est l'heure des compliments. François Loncle, ancien député et ministre, était avec nous.
J'ai quitté France Inter pour RTL et je ne suis pas de ceux qui vous critiquent.
Très bon choix, monsieur Loncle. Allez, amis juilletistes, le grand jour est arrivé.
On va célébrer les vacances aujourd'hui.
Mais Pascal, vous nous calmez dans notre élan.
Je me demande finalement si c'est pas le bon moment partir en vacances. Parce qu'on est le 2 juillet, on peut encore dîner dans les restaurants, aller à la plage. Je ne sais pas si le 15 août, on sera dans le même état.
Ouais, sauf que du coup, en vous écoutant, Pierre-Louis, notre community manager, a quitté la régie. Et oui, c'est l'heure des vacances pour Pierre-Louis. Musique pour le résumé, Greg. Il y a quelques mois, nous avions tenté de le caser à l'antenne avec Marine au 3210.
Et vous avez entendu la petite annonce tout à l'heure de l'ami Laurent Tessier. Il y a Pierre-Louis qui est tout seul.
Oui, j'ai entendu.
Ah, il est sympathique, Pierre-Louis.
Oui.
Ah, c'était un petit oui aujourd'hui, mesdames. Pierre-Louis, qui est la coiffure de Jack Abbott dans Les Feux de l'amour, notre colosse du Morbihan, amoureux de Véronique Sanson et de Cassav, chante dans les rues de Belle-Île.
J'attends l'amour de mes rêves.
Alors, il est temps de faire une annonce officielle. Casons tous ensemble, Pierre-Louis.
Parce que c'est notre projet.
Oui, à tous, jingle Greg Caranoudi. À toutes les habitantes du Morbihan, si vous êtes à Belle-Île cet été, contactez-nous sur la page Facebook de l'émission. Bon, j'ai quand même l'impression que Pierre-Louis est déjà loin de nous, tout se mélange en ce moment. À quoi peut-il bien penser en parlant du chanteur Bruce Springsteen ?
Dans un studio voisin, il y a The Boss Bruce Springsteen qui enregistre Bruce Springsteen.
Ah, Bruce Springsteen dit le boss du sous-vêtement et par moments, Pierre-Louis tente de parler russe.
Pavlyu Chekhova. Chekhova.
Bon, bonnes vacances Pierre-Louis. Allez, mesdames, messieurs, c'est le dernier épisode des aventures de Flavie et Pascal.
Non ! C'est pas possible !
Mais oui, si, comme diraient mes ex-petites amies, se quitter pour mieux se retrouver. Générique Greg Caranoni.
C'est un
nous
petit
nous
peu
vivons.
Mon petit chevreuil à moi. Lâchez-vous.
Ah non, je vous en prie.
Vous n'êtes pas encore grand-père, vous ?
Non.
Ça ne saurait tarder ?
Je vous remercie. À demain.
Salut, papy.
Un passage d'antenne à 14h30 où tout s'est produit, deux présentateurs qui se titillent.
Vous voulez danser avec moi ?
Non.
T'es gazé.
Mais Pascal Pro n'est pas un homme facile. Le Don Juan de Noirmoutier, la galette saucisse locale, ne s'est pas laissé ensorceler par les beaux yeux de Flavie Flamand.
Quand je rentre dans ce studio, vous m'appelez comment ?
Ami ?
Oui, bah justement, oui. Effectivement. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour moi ?
Rien.
Mais Flavie ne s'est pas laissé faire. Pour qui se prend-il, ce Pascal ?
Par exemple, Pascal, vous, vous m'aimez ?
Ah, je vous vénère.
Voilà, et eh bien moi, admettons que je ne vous aime pas en retour.
Oui, ça peut arriver.
Des moments aussi d'amour, d'ambiance muy caliente, ouh.
Et puis des bisous partout, alors ça on l'a jamais fait.
This is CNN Breaking News. La fin de saison arrive, Flavie et son équipe partent pour une nouvelle aventure sur RTL à la rentrée, jour J, le soir à 20h.
Quand vient la fin de l'été, sur la plage,
Est-ce que c'était lié à notre échange de 14h30?
Exactement,
que vous avez
c'est vous qui m'avez fait fuir, en fait, Pascal.
Vous êtes un Régis Ravanel, si je pouvais. Alors, écoutez, dialoguer à 14h30 avec Pascal, c'est plus possible, donc je voudrais aller plus loin.
Mais Pascal, vous ne lâchez pas l'affaire aussi facilement.
Je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'à 20h, je serai tranquille. Eh
ben,
donc,
je me demande si je vais
non, mais je me réjouis de cette nouvelle aventure.
Allez, l'heure fatidique arrive, le dernier échange de la saison entre Pascal Praud et Flavie Flamand.
Ça va être un grand moment.
Mais on sera triste de
ouais.
vous
on
quitter,
se retrouvera
mais
on le soir. Besoin de rien, envie de
toi. Bon, j'ai comme l'impression qu'on risque d'être en retard.
Que vous me donnez l'antenne toujours avec une minute de retard.
Ah, c'est faux, alors ça, c'est pas vrai.
Oh, ça y est, tout de suite.
Ah oui, non, non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Hein.
C'est 14h30, pile. Ouais. Nous sommes avec Flavie Flamand.
Un peu plus que 14h30, mon cher ami.
Non.
Aujourd'hui, non, 14h32.
Ah, oups, bon, au moins à la rentrée fin août.
Je ne prendrai pas l'antenne avec du retard l'année prochaine, ouais.
Ah, et au final, quand on réécoute tous ces moments...
On s'en dit des choses, hein.
Ben oui, on s'en dit des
choses. Oh là 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 là.
Mais le 2 juillet marque aussi un grand événement.
C'est aussi le jour de mon anniversaire, ah, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Mais si, mon petit...
Happy birthday, Flavie. Est-ce que vous avez une demande particulière, une chanson que vous aimeriez écouter pour votre anniversaire, Flavie ?
Sur les pimpons sur le chihuahua. On...
Ah bah attendez, qu'est-ce qu'il y a, Flavie ?
On va l'avoir quand même dans la tête jusqu'à la fin de la journée. Donc merci à Laurent.
On peut le réécouter un peu ?
Non, non, Pascal, on n'a plus le temps. Un dernier mot, Flavie, avant de vous donner l'antenne. Vous êtes comment après cette chronique ?
Essoufflé de plaisir.
Ah, je vous en prie. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. Bravo à toute l'équipe dont on est fait pour s'entendre pour cette formidable aventure et ces 10 belles années. Flavie, Céline, Sébastien, Marc, François, Dany, Bastien, Alexandra, avec qui j'aurais tenté un soir aux Invalides le porté de Dirty Dancing sans succès. Nous avons goûté la pelouse. Allez, une nouvelle aventure démarre pour toute l'équipe.
Bravo, vraiment bravo. C'était très réussi, c'était très tendre aussi, donc bravo. Flavie, dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole. Pascal.